Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Sur RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr avec Jean-Loup. Salut Jean-Loup.
Salut Baptiste.
Alors on se retrouve une nouvelle fois parce que là tu as été témoin quand même sur le marché de quelque chose qui mériterait d'attirer l'attention des auditrices et des auditeurs.
Ben oui, malheureusement, mais je crois que c'est la vie aussi. C'est vrai que, bon, lorsque les gens pètent les plombs, s'il n'y avait pas d'autre expression, ça ne fait jamais plaisir. Mais là, malgré toute l'amitié que j'ai et le respect que j'ai pour tous les Diwa et surtout pour les gardiens de la paix aussi, qui jouent un rôle très important dans la paix de notre ville, ben là, j'ai dû assister à un échange qui ne devrait pas se passer à Die. J'ai vu que c'était déjà passé dans d'autres villages de Die, mais en fait, voir une petite femme de 1m70, gentille comme tout, qui se fait embarquer avec les menottes par trois grands gaillards de 1m90 et armés jusqu'aux dents, franchement, c'est une scène qui fait peur, quoi. Qui fait peur, surtout quand tout le monde est masqué, on ne sait pas qui en a affaire, on ne sait pas qui se fait embarquer, et on s'est dit, mais attends, où est-ce que je suis, quoi ? Vraiment, où est-ce que je suis ?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Ce que j'ai su, parce qu'après, c'est bon, j'ai posé quand même quelques questions, j'ai essayé de faire quelque chose, de me dire, attends, je suis Diwa, je suis là, je m'arrête, on s'arrête en cause, attends, arrêtez là, parce que manifestement, tout le monde est disjoncté là, pour qu'il se passe quelque chose comme ça, c'est pas possible. Donc, effectivement, je crois que la personne, donc cette jeune femme que je connais, qui est vraiment très bien, mais même si elle n'était pas bien, c'est une humaine, il n'y a pas de jugement à voir, mais c'est quand même une personne qui apporte beaucoup dans le Diwa. Et donc, elle a été interpellée parce qu'elle était en train de prendre son café sans masque. On lui a demandé si elle avait une attestation, une autorisation de respirer et de boire son café, comme ça se fait actuellement. Donc, elle ne l'avait pas. Et là, il y a des propos qui ont été sortis. Et donc, manifestement, elle a injurié les membres, les gardiens de la paix.
Ouais.
Et donc là, bien sûr, je peux pas valider ça, ni cautionner ça. Personne ne devrait. Mais qui n'a pas pété les plombs? Enfin, je veux dire, moi le premier. Je veux dire, ça arrive à tout le monde, c'est clair. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est de voir que trois grands gaillards comme ça, eux aussi pètent les plombs. Parce que pour embarquer une jeune femme comme ça, alors là, non. Pas ici, pas en France, pas comme ça. Il y a d'autres moyens. On peut verbaliser, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais pas embarqué au poste comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Non, là. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Mais je comprends très bien que ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les trois gendarmes ont aussi pété les plombs, c'est clair. On leur fait faire des choses qui ne sont pas justes. Alors, sans compter le fait où déjà, au printemps, ça a commencé au printemps, où on les forçait à ne pas porter de masque alors que tout le monde pensait que le virus était dangereux. On les forçait, ils avaient l'ordre de ne pas porter de masque.
Pour ne pas faire peur à la population?
Non, je crois que c'est plutôt parce qu'il n'y avait pas de masque. Donc, ils ont changé, ils leur ont pas expliqué, ils ne leur ont jamais dit. Le ministre de tutelle...
Mais à l'époque, le discours gouvernemental était de dire que les masques ne servaient à rien. Il y avait Sibeth Ndiaye qui disait, de toute façon, nous, on ne sait pas s'en servir, donc la population ne saura pas. Alors, Olivier Véran disait, ouais, mais non,
alors
les masques, c'est pas utile.
Ça a commencé comme ça, mais après, ils ont commencé d'imposer les masques. Mais même s'ils imposaient les masques, eux ne devaient pas en porter. Donc, c'était comme ça. C'était un ordre. Alors, des prétextes, priorités aux membres de médicaux, tout ça. Mais les gardiens de la paix, ils sont toujours très face à face aux gens. Donc, ils avaient besoin d'avoir un masque. Ouais. Ils avaient besoin d'avoir un masque si c'était vraiment virulent, si c'était un virus. Aujourd'hui, on sait que le masque ne sert à rien. Bon, mais c'est clair. Ou bien vraiment que dans des cas, pour les chirurgiens dentistes, pour des contacts très, très proches. Mais pour le reste, on sait que ça ne sert à rien. Mais on continue pour des raisons politiques, gouvernementales, de pouvoir. De business, de je sais pas trop quoi, à vouloir pousser les gens à continuer de porter le masque. Mais pour en revenir à ce que je disais, j'ai perdu mon fil.
Ces gardiens de la paix, ce pétage de plomb.
Ces gardiens de la paix, je veux dire, on les force à faire des choses qui ne sont pas justes. Donc on les force à imposer des attestations, on les force à imposer de demander les pièces d'identité à des gens qu'ils connaissent très bien. Je veux dire, mais c'est un non-sens, quoi. On sait très bien que la peur tue Et aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est faire peur, faire peur, faire peur. Tu te rends compte que même à l'école, on a vu des gendarmes venir avec des bazookas, des gros trucs, etc.
Des FAMAS.
Des FAMAS. Enfin, voilà. Mais déjà,
non, mais effectivement, c'était pas des LBD. Et c'est ça qui fait. Parce que le LBD, a priori, c'est non létal, il paraît.
Ouais.
Le FAMAS, lui, il l'est. Et c'est vrai que ça a été vu, c'était choquant devant l'école de Chabestan. Qu'est-ce qui fait qu'ils pètent les plombs
Je pense que c'est tout simplement parce qu'on les force à faire des choses qu'ils savent n'être pas justes. Donc ils sont entre deux bateaux. Donc ils savent pas quoi faire. Ils disent non, attends, j'ai mon métier, j'ai mon truc. Et la plupart sont des gens, la quasi-totalité sont des gens qui y croient. Ils sont là parce qu'ils veulent animer la paix. Ben, la seule chose, bien sûr, c'est qu'on leur a appris que la paix, ça s'obtient avec les armes. Alors que Nelson Mandela nous a appris autre chose quand même. La paix, ça s'obtient pas avec des armes. Ça s'obtient avec la voix. Mais on voit Gérard Darmanin qui dit « les Français ne respectent plus l'autorité ». Non, les Français ne respectent pas l'autoritarisme. L'autorité, tout le monde la respecte. Tout le monde. Et on le voit le matin sur le marché. La police municipale, ils s'expriment avec autorité pour donner les places. Et la plupart du temps, il n'y a pas de problème. La différence entre l'autorité et l'autoritarisme, l'autorité, c'est on parle en étant bien centré sur soi et on reste dans son niveau de responsabilité et de compétence. L'autoritarisme, c'est on dépasse les limites. Quand on s'exprime avec autoritarisme, on fait exploser tout le monde. C'est normal. Et là, je pense que dans le cas présent, ce qui s'est passé, c'est que la manière dont ces trois personnes que je respecte et que je suis sûr que ce sont des gens très bien dans le privé quand ils ne sont pas masqués avec leur costume et tout le reste et qu'on leur impose d'avoir un rôle qui n'est pas juste. Mais la manière dont ils se sont exprimés face à cette jeune femme que je connais, c'était forcément une manière à faire disjoncter les gens, quoi. Je veux dire, c'était pas une insulte, mais j'exagère. Je veux dire, vos papiers, votre attestation, vous n'êtes pas juste, qu'est-ce que c'est Tu vois, j'exagère. Je dis, c'est le ton que j'essaye d'exprimer. Ils sont exprimés avec force, en obligeant les gens à faire quelque chose, comme on voit des jeunes qui veulent sortir et courir, et on voit des gendarmes, pas ici, pas à Die, mais peut-être, qui courent après les jeunes qui sont sur les bords de Drôme pour respirer. Attends, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Donc là, vraiment, on a dépassé toutes les limites. Et c'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à avoir plus de calme et surtout arrêter cette violence qui est naissante.
Comment tu expliques que quand même la population d'une manière générale n'est pas du tout, n'adhère pas, quasiment pas à ce deuxième confinement
C'est pas juste. Le premier n'était pas juste déjà, mais on le savait pas. Mais
on était sidéré.
Bon. Maintenant on a compris. Alors, on a compris. Alors maintenant, j'ai vu que le ministre Olivier Véran dit maintenant il va y avoir une troisième vague. Et la troisième vague, ça sera une perturbation mentale. Une vague de perturbation mentale. Mais attends, mais elle est créée par qui, cette vague? C'est ce confinement, c'est ces gens qui sont poussés à bout, qui sont commerçants qui sont poussés au suicide, c'est tous ces gens qui ne savent plus où aller, qui sont confinés, qui vont péter les plombs complètement. Alors bien sûr, la troisième vague, c'est du mental. Ah ben, si vous voulez augmenter la courbe des décès, c'est bon, on va les appeler des décès Covid, oui. Non, c'est des décès gouvernementaux. C'est pas juste, quoi. Donc il faut laisser vivre les gens. Il faut laisser vivre les gens, absolument, laisser respirer les gens, et arrêter de monter les gens les uns contre les autres. Là, on monte les gardiens de la paix contre la population, mais où ça va?
Est-ce qu'il pourrait y avoir des propositions? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Est-ce que, par exemple, comme certains membres de la classe politique disent, on pourrait dédoubler les classes, agrandir les espaces pour se croiser? Est-ce qu'il faudrait autoriser les gens à aller en montagne, mais ne peut-être pas aller s'agglutiner en ville? Enfin, quelle pratique selon toi, il faudrait avoir... Parce qu'on ne peut pas être juste libre de se déplacer imaginaient qu'il y aurait des cas contacts permanents. En fait, c'est ça leur logique. Moi, j'essaie de comprendre où ils en viennent.
Mais c'est une logique qui ne correspond pas à la réalité. Regarde ce qui se passe en Suède, regarde partout. C'est tous les endroits qui ne sont pas confinés. Regarde en Afrique, ils ne sont pas confinés, ils n'ont pas ce problème-là. Mm-hmm. Donc, il y a... Bon,
bien sûr, je vous renvoie à une très belle interview qu'on avait fait au Sénégal, d'ailleurs, sur RDI. Voilà.
Ben voilà, non mais c'est clair. Alors, c'est vrai que...
Mais je pose la question pour te faire répondre. Hein.
Ouais, non. non, mais t'es excellent. Mais il n'y a pas de problème. Mais... Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est tout le principe du confinement qui n'est pas juste et qu'il faut vraiment regarder. Mais la seule chose, c'est que, étant donné que le gouvernement utilise, et tous les hommes politiques utilisent très habilement la technique de tout dire et son contraire, ça laisse les gens perplexes et dans l'inaction. C'est-à-dire que les gens disent « je ne sais plus sur quoi penser, je ne sais plus quoi dire, donc j'arrête de m'informer, mais je garde le contact avec l'information officielle. » Et l'information officielle, c'est matraquage d'idées fausses, de faux chiffres. Et ça, ce n'est pas juste.
Moi, j'ai quand même plutôt l'impression que les gens ne sont justement pas dupes là, en ce moment. Il y a une espèce de mouvement inverse, de défiance par rapport à la parole gouvernementale, de perte totale de confiance par rapport au métier des gardiens de la paix et l'ensemble de la police. J'ai l'impression que ça, c'est en train de se dégrader, se déliter complètement.
Ah bah oui, ça c'est clair, mais ça s'entend très bien. C'est pour ça, hein, on dit, vous savez, il y a les détecteurs de mensonges et le travail sur comment détecter ce qui est vrai, ce qui est faux. On voit bien sur Facebook, sur Internet, maintenant tous les contrôles qui sont faits par Facebook en accord avec le gouvernement, etc., pour dire ça c'est une fake news, ça c'est une fausse nouvelle, ça c'est une fausse information. Alors là, c'est le menteur qui dit que les autres mentent. Là, c'est vraiment gros comme des maisons quand on le voit. Mais il faut regarder ailleurs. Il faut regarder les informations qui sont publiées en langue étrangère, qui sont publiées dans d'autres pays pour s'en rendre compte. Ça, on a tous un travail à faire par rapport à ça. Cela dit, si on écoute correctement sa voix, et ça, je veux bien te redire comment est-ce qu'on peut faire, si on écoute correctement sa voix, on entend très, très bien comment, quand est-ce qu'une information est vraie et quand est-ce qu'une information est fausse. Et là, il y a plein d'exercices pratiques. Il suffit d'écouter les hommes politiques. Alors là, c'est hyper facile. C'est très, très rare quand ils parlent et que l'on entend que ce qu'ils disent est juste. La plupart du temps, c'est faux. Alors ça s'entend très bien dans la voix. Hein. C'est le travail qui a été fait. Le travail avait été commencé en Israël, d'ailleurs, en 1980, avec le Mossad. Et ils avaient formé les équipes de douaniers pour arriver à entendre lorsque les gens disent vrai ou disent faux. Je ne sais pas si je te l'avais déjà dit, ça, mais... Et c'est là qu'ils avaient commencé de sortir les premiers questionnaires où on disait « Est-ce que vous avez une bombe dans votre valise ?» C'est une question... On a l'impression que c'est une question stupide. Ce n'est pas une question stupide du tout.
Voire folle. Ouais.
Mais évidemment, tous les gens vont répondre non. Mais il y a le nom qui sonne juste et le nom qui sonne faux. Et les douaniers étaient formés à l'écoute. Et on écoute. Donc maintenant, tout ça, ça a été refait. Alors, ça a été perdu, les douaniers ne se forment plus du tout, mais à Taïwan, les médecins, les vieux médecins, ne soignent que comme ça, soignent que avec la voix. Et ils écoutent et ils entendent les patients parler de ce qu'ils sentent, de ce quels sont leurs problèmes, et ils le voient. Et c'est à Los Angeles aussi, il y a les médicaux.
Les homéopathes aussi ont tendance à faire ça.
De plus en plus, mais il y a des gens dont c'est le métier. À Taïwan, c'est officiel, c'est on soigne avec la voix. On n'écoute que la voix. À Los Angeles, il y a les medical intuitives, il y a des écoles pour ça. Et c'est des gens qui sont à côté des médecins pour uniquement écouter la voix des personnes et disent, ben non, ben il faudrait regarder plutôt du côté du rein droit ou du sein gauche ou quelque chose. Là, il y a plus quelque chose qui ne sonne pas juste. Et puis, en France, on a aussi toute une approche qui est très, très importante et qui marche remarquablement bien. Mais c'est basé sur des choses simples. Donc, si tu veux, on peut... Revoir ça, parce que moi, je suis pour un appel au calme. Il faut être lucide, se rendre compte que oui, on est face à un gouvernement qui a complètement perdu pied, qui est complètement déconnecté de la réalité. Alors, si, à chacun de faire son travail, mais ils ont des plans, je veux dire, c'est écrit, hein, tout le plan. La grande réinitialisation qui est prévue au printemps, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de lits d'hôpitaux? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de prévention? Surtout, tout ça, c'est prévu. Hein. Donc, il suffit de regarder. Mais étant donné que c'est très anxiogène, tout ça, je crois que le mieux, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, on a la possibilité tous de retrouver notre calme. Et moi, c'est ce que je souhaite le plus, et c'est pour ça que je suis sur le marché le mercredi et le samedi. C'est pour aider les gens à retrouver leur calme et leur connexion en mangeant des plantes que l'on trouve gratuitement dans la nature. Et ça, c'est la seule chose qui peut nous changer. Le premier réflexe qu'on a quand on veut s'alimenter, c'est prendre de l'argent et aller acheter. Et il y a 88 commerces, comme je le disais la dernière fois, dans lesquels on peut acheter quelque chose à manger. Mais le réflexe, c'est plutôt de dire, bon, je prends mes jambes, mes bras, mes yeux, mon petit panier, et je n'ai même pas besoin de petit panier, je vais me nourrir directement dans les milliers de points d'alimentation qui sont à 1 km, 2 km de dit.
Oui, un kilomètre, attention.
Un kilomètre. Non, ça, je m'en fous. Ça, il faut vraiment arrêter. Franchement, de vouloir imposer à quelqu'un de ne pas rester plus d'une heure. Et j'en vois des gens qui disent « Ah non, mais il faut que je me dépêche. Attends, j'ai dépassé l'heure. » Non, mais il faut arrêter. Mais arrêter ces conneries.
C'est un peu fou.
Mais ça n'a aucune justification.
C'est orwellien, comme on dit.
Mais exactement. Ça n'a aucune justification. Ce n'est pas comme ça qu'on va éviter la propagation du virus, même si on nous fait croire que c'est ça. C'est uniquement une prise de pouvoir des gens. Et encore, on va vous obliger à contrôler, à obéir, à payer vos taxes et tout ça. Mais non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. On n'est pas obligé de... On a le droit de respirer. C'est un droit fondamental. On a le droit de respirer. On n'est pas obligé de porter un masque. Le masque ne protège certainement pas les autres. Mais alors là, excuse-moi, je le dis en m'emportant un peu, je devrais dire avec beaucoup plus de calme. Mais c'est vrai,
t'es pas très calme. Hein.
Non, mais c'est vrai, je m'emporte. Et je demande pardon, parce que ça, c'est vrai que ça sert à rien de s'emporter. Mais c'est vrai, le masque ne sert à rien. Et le confinement, c'est une horreur. Ce n'est pas justifié. Donc, il faut arrêter avec ce truc.
Et surtout, ça isole beaucoup de gens, ce que tu disais d'Olivier Véran. Et pour une fois, il aura raison. Les gens sont en train de devenir fous.
Bien sûr.
Tranquillement, chez eux.
Bien sûr. Mais Olivier Véran, c'est le premier en tant que médecin qui avait dit « Le confinement rend malade ». Il l'a dit. Il l'a dit clairement.
Après, il a perdu son calme aussi à l'Assemblée pour dire l'inverse.
Oui, non, ça c'était un coup d'éclat. Ils sont très très formés là-dessus. C'est comment faire un coup d'éclat, mais il a pas pâtissé plomb. C'était simplement un cas d'acteur. Lui, il a deux pistolets derrière la tête. S'il fait pas ce qu'on lui dit de faire, gare lui. Donc, il fait comme tout le monde, c'est-à-dire comme Macron aussi, c'est pareil. Il est obligé de rendre compte. Je suis désolé, mais ça se voit, c'est affiché. On sait comment il a été élu. Il a des comptes à rendre et c'est tout. Mais ce sont des intérêts financiers, tout ça, encore une fois. C'est pour ça, Adi, on a la possibilité, parce qu'on a une végétation absolument fabuleuse et surtout des gens aussi qui sont heureux, on a la possibilité de se retrouver soi. Alors, dans se retrouver soi, il y a 8 points à faire qui sont très importants. Le premier, et c'est vraiment quelque chose d'important sur lequel j'apprends tous les jours, c'est l'identité. C'est d'abord être bien sur son identité. Donc, ne pas faire exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire ne pas réagir, arriver à agir sans réagir. Donc, agir, c'est bien se recentrer sur soi, faire résonner son prénom à l'intérieur de soi, pas un surnom, pas un matricule. C'est avec les matricules qu'on envoie les gens dans n'importe quel pays tuer des innocents. Mais si on les appelait par leur nom, on ne pourrait pas le faire. Donc, c'est vraiment...
Oui, tu parlais des gardiens de la paix, ils ont un numéro, juste. Hein. Des fois, ils le cachent, d'ailleurs, en manifestation.
Mais ça fait partie des choses qui sont à changer. Ça fait indéniablement partie des choses qui sont à changer. Parce qu'on peut tuer quelqu'un qui est masqué, d'ailleurs, c'est ce qui se fait. Mais quand tu vois le sourire de quelqu'un, tu ne le tues pas de la même manière. Ça, tu ne t'adresses pas à la personne. Mais c'est le fait d'avoir les masques et de ne plus voir la tête des gens, de ne plus voir le sourire, ça permet des choses, ça fait péter les plombs beaucoup plus. Moi, j'ai l'impression d'être à Halloween tous les jours avec tous les gens qui ont leurs masques qui font peur. Je dis, mais je ne sais plus qui est qui. Je suis entouré de robots, quoi. Non, mais qu'est-ce que c'est, ça? Mais ça fait peur, ce truc. Alors qu'un sourire, ça guérit. Et c'est justement ça, tout le rôle social, le marché qui est fabuleux ici, qui était fabuleux. Mais il va falloir qu'il revienne, il faut qu'on ouvre ce marché. C'est idiot, quoi, de bloquer comme ça. Il faut l'ouvrir, et c'est ce qui permet de communiquer, de s'échanger, de boire un café ensemble, surtout de sourire. Et c'est comme ça qu'on se régénère. Donc l'identité, c'est le plus important. Être sur son identité. Après ça, être ici et maintenant. Quand on est là, il ne faut pas toujours regarder à droite, à gauche, regarder dans le passé, se projeter dans le futur. C'est essayer un petit moment d'apprécier l'instant présent. C'est pour ça que le passage en forêt est aussi important parce qu'on peut s'asseoir à un moment donné et dire « Ok, je pense à rien de tous mes soucis, je ne m'inquiète pas pour le futur, je regarde ce qu'il y a autour. » Et simplement regarder la nature et toute cette beauté de la nature en restant assis au calme, et là on a 1000 kilomètres de balade à Die où on rencontre personne, donc on est tranquille.
On n'est pas en contact.
On n'est pas en contact en plus, je veux dire, donc il n'y a pas de problème.
Ça irait même dans le sens.
Ah ben oui, mais ça va complètement dans le sens. Je veux dire qu'on y reste une heure ou qu'on y reste toute la journée, quelle différence ça fait si réellement les ordres étaient pour lutter contre le virus. C'est ce qui est faux. Donc aujourd'hui, on le sait. Donc restons dans la forêt autant qu'on peut pour se reconnecter à la nature et se reconnecter à son soi. Donc dire son prénom, dire je suis là, ici et maintenant. Ensuite, troisième point, ressentir qu'on est bien inséré sur la terre. Ressentir que l'on a les pieds sur terre. C'est la connexion à la terre. Alors la terre... Moi, j'aime beaucoup toute l'approche qui est à la fois asiatique et puis occidentale. C'est les deux. Les deux approches sont ensemble. C'est de bien voir qu'il y a cinq éléments, que les cinq éléments sont en relation avec les cinq sens. Alors, quand on se reconnecte à la Terre, je crois que c'est très important. Et ça, je l'ai fait souvent sur le marché. C'est demander aux gens de mettre la main dans la Terre. Eh bien, il se passe plein de choses. C'est que si on commence d'écouter son prénom change. Quand on met la main dans la terre. Quand on met la main dans la terre, eh bien, on est en harmonie avec son goût. Et le goût, il est en relation avec la saveur amère. C'est très important, ça, ce que je veux dire, parce qu'aujourd'hui, on détruit tout avec les deux composantes sucré-salé. Il n'y a que sucré-salé, on ne connaît que ça. Mais on a oublié complètement l'amère et l'acide. Et l'amère est en relation justement avec le goût amer, est en relation avec l'élémentaire, est en relation avec tout le goût. Mais le goût, c'est large. C'est le goût d'exister, déjà, d'exister sur son identité, d'exister soi, pas par rapport à papa, par
le
rapport à
vivre,
maman,
quoi.
Le goût de vivre, le goût de communiquer, le goût de tout. Le goût de parler, le goût de chanter, le goût d'être. C'est ça qui est très important.
Et
c'est
cette... Le goût comme un désir, une sorte de quelque chose de...
Alors c'est différent. Mmh. C'est le goût d'exister d'abord. Après ça, le désir d'exister, c'est encore autre chose. Tu vois, ça va être les quatrièmes éléments. J'y viens parce que c'est chacune des composantes est très... Non, mais c'est très bien. Mais c'est très bien, c'est très important. Et c'est là que, quand on est en forêt, au minimum, goûter quelque chose d'amer. Alors en ce moment, il y a les pissenlits. Qui sont là encore beaucoup. Il y a aussi les calendulas qu'on peut manger. On peut manger, bon, les pissenlits, il y a 40 variétés de pissenlits, donc il y a de quoi faire. Et les calendulas, il n'y a aucun risque, ça pousse toute l'année. On peut manger les fleurs et les feuilles, donc ce n'est pas 100% amer, mais quand même. Et il y a la chicorée amère. Alors ça, c'est les petites feuilles, les pétales bleus que l'on peut manger. Moi, j'en mange 5 tous les matins, ça, je peux vous dire, ça, c'est clair. Il y en a encore, il y en a moins maintenant, mais c'est un goût amer, mielleux, absolument délicieux. Et ça stabilise. Alors ça vous ancre davantage dans votre réalité, sur la Terre. Ça stimule l'estomac, le pancréas, tous les problèmes gastriques. Ça stimule la structure osseuse et ça stimule la prostate et l'utérus. Donc, comme par hasard, les gens qui ont des problèmes de genoux, ce sont des gens qui ont des problèmes d'existence. Et des problèmes d'existence par rapport à eux. Donc, si c'est à droite, à gauche, ça ne veut pas dire la même chose. Mais les problèmes de prostate et d'utérus sont essentiellement en relation avec ce goût d'exister. Ce goût d'exister, ce goût de communiquer. Donc, c'est pour ça que ça arrive, en général, à la troisième période de sa vie, parce que les gens changent d'existence et ils n'arrivent plus à se restabiliser et à exister par rapport à eux.
Puis leurs amis meurent, leurs contacts...
Voilà, c'est, ils existaient par rapport à d'autres et ils n'arrivent plus à réexister par rapport à eux. Mais ceux qui font bien le travail, ils vivent jusqu'à 100 ans, ils n'ont pas de problème. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est être dans la joie d'exister. Et donc être dans la joie d'exister, et là on retrouve, et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a de plus en plus de problèmes du urinaire et de toute la sphère urinaire, uniquement pour ça, cette sphère-là, elle est perturbée par la peur. Et c'est pour ça que c'est aussi grave tout ce qui se passe en ce moment de faire peur, et surtout faire peur aux enfants ou aux seniors ou à tous les autres, parce que ça a des conséquences énormes. Ça va perturber tous les reins, la vessie, bien sûr, mais ça perturbe aussi la veine, les manières de recevoir. Donc on voit les gens qui sont pétrifiés, hypnotisés, il n'y a plus rien qui circule dans le corps. Tu vois, c'est un manque de communication totale. On n'arrive plus à communiquer. Quand on est dans la peur, on est paralysé. On ne communique plus. Donc, il faut retrouver une joie de vivre. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce que tu fais, ce que tu fais avec toute ton équipe, c'est essayer de rire, quoi. Il faut trouver le moyen de rire de tout. Mais rire comme des enfants, pas en se moquant, mais rire avec la joie de vivre, tout simplement. On a la chance de vivre, bon, mon Dieu, mais qu'on en profite, quoi. C'est clair. Après ça, le troisième élément, après l'eau, parce que ça, c'est l'élément eau, après, t'es l'élément air. Hein. C'est comme la graine, elle est mise dans la terre, elle pousse grâce à l'eau, et après ça, boum, elle sort de terre. Donc, on est dans l'air. Et l'air, c'est l'image aussi qu'on a. Donc, c'est là que c'est important, parce que cet élément, l'air, c'est l'élément qui va toucher toute la sphère respiratoire. Et toute cette sphère respiratoire, elle est touchée lorsque on ne respire pas pour soi, mais qu'on respire pour les autres. C'est-à-dire qu'on va exister dans une image par rapport aux gens, au lieu d'exister par rapport à soi. Et c'est là qu'on retrouve les problèmes d'autorité aussi. C'est quelqu'un qui s'exprime sur sa réalité. Il va s'exprimer avec autorité, tout le monde va l'écouter. On n'a pas besoin d'avoir un bâton de parole, on n'a pas besoin d'avoir un micro. Si on s'exprime simplement. Si on exprime notre réalité, tout le monde va nous entendre. Mais il faut s'exprimer. Adi, on a tellement d'artisans qui s'expriment, c'est fabuleux le nombre d'expressions qu'il peut y avoir. Mais quand on est dans la nature, eh bien, la manière dont on va communiquer avec un jardin, avec une forêt, c'est sa propre expression et c'est fabuleux. Et les plantes nous le renvoient très très bien. Et puis, il y a la connexion avec tous les animaux. Et c'est là aussi qu'on voit qu'on ne peut pas tricher. Moi, quand les gens viennent chez moi, je vois comment mon chat réagit, comment les ânes réagissent, comment les chevaux réagissent, éventuellement, s'ils ont des chiens, comment les chiens réagissent, comment ils se comportent. Et là, on sait à qui on a affaire. Ça, on ne peut pas mentir là-dessus. Donc, c'est vraiment très, très important de retrouver sa réalité et son expression et de s'exprimer soi. Donc ça, c'est le 4...
On oublie souvent de le dire, mais on respire le même air depuis le début et jusqu'à la fin de la Terre. Ouais. Il n'est jamais changé. On respire le même air que les dinosaures, par exemple.
Ben oui.
Ouais. Donc tout est très connecté. Là.
Et encore une fois, les masques nous perturbent énormément là-dessus.
Parce que là, on respire que le sien, du coup, pendant quelques temps.
Ah mais c'est terrible. Mais surtout, on respire tous les microbes qu'on a inhalés. C'est démontré, mais je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas un scandale plus grand que ça. Quoi. Pourquoi les gens n'ouvrent pas les yeux. Je veux dire, c'est scandaleux de porter un masque. Quoi. Alors, c'est vrai que moi, je dois avouer, je ne suis pas aussi grand que j'aimerais l'être. Mais c'est vrai que quand je suis face à quelqu'un qui a des galons, un numéro et des pistolets et qui me dit « Attends, vous devez porter le masque », je dis « Ok, bon, pour te faire plaisir, je vais remettre le masque. » Mais je m'empresse de l'enlever juste après. Attends, je ne veux pas crever, non ? Non, mais il ne faut pas exagérer, c'est une horreur. D'autant plus que tous les hommes politiques qui nous imposent ça, je suis intimement plus que persuadé, preuve à l'appui, qu'en privé, eux, ils ne le portent pas. Quand ils ont leur réunion fermée, ils ne le portent pas.
Ah bah oui, l'enlève, bien
sûr. Ils s'en foutent éperdument, c'est évident. C'est uniquement des ordres qui sont donnés aux petits et aux petits.
Eux-mêmes, mais dans un certain cadre et hors de ce cadre-là. On voit même à la télé quand ils se reçoivent et tout le monde l'enlève.
Mais oui, et puis même quand on leur demande de mettre le masque pour parler, on voit bien qu'ils n'ont pas l'habitude de le porter. C'est comme si c'était la première fois de leur vie qu'ils le portaient. Tu vois, ça enfin, ça tient pas debout. Bon, là, je dérive.
Après l'air,
eh ben, il y a le feu, justement. Et là, le feu, en ce moment, il reste des plantes fabuleuses encore que l'on peut prendre pour réveiller tout le système cardiovasculaire. Alors moi, ce que j'aime bien présenter au marché aussi, c'est faire goûter aux gens simplement des fleurs de capucine. Je sais que le resto, je peux citer un resto, c'est possible.
Ah bon, si
le resto, je fais la pub gratuite, mais très gentille, avec Julien, avec les bons passants. Ils mettent systématiquement dans les petites salades à emporter une fleur de capucine. Mais ça, c'est fabuleux, quoi. Non seulement c'est joli, c'est bien, c'est en rapport avec la vision, ça stimule la vision, mais ça stimule tout le cœur, tout l'intestin grêle, les artères, ça donne envie.
Mais puisque tu as cité le restaurant, est-ce que cette fleur de capucine reste dans l'assiette parce que les gens ne pensent pas qu'ils doivent la manger ou est-ce que tout le monde la mange ?
Non, je pense que tout le monde la mange. Ah bon. Mais c'est un goût poivre radis assez fort. Non, je pense que tout le monde... Non, tout le monde la mange. Et puis elle le dit aussi. Non, tout le monde la mange. Et alors moi, ce que je fais sur le marché, tout à fait gracieusement, c'est montrer à tout le monde de faire cette expérience-là et de manger aussi les feuilles de capucine. hallucine. Et ça, c'est, j'ai fait l'expérience, c'était mercredi dernier, c'était marrant parce qu'il y avait un couple qui était venu et puis une femme que je connaissais aussi qui n'a pas dit un mot pendant tout le temps, toutes les explications que je donnais sur toutes les plantes qu'on pouvait manger en ce moment, comment est-ce qu'on pouvait le manger et tout. Puis moi, je lui ai dit, tu ne veux pas essayer ça? Alors, elle a essayé et le moment où elle a essayé de manger une capucine, elle s'est mise à parler. Elle dit, ouais, mais c'est fort, mais attends, mais c'est bon, mais qu'est-ce que c'est? Oh, et puis, à partir de ce moment-là, elle a commencé à parler. Donc, je dis, moi, en apéro, comme premier truc, mettre une fleur de capucine, une feuille de capucine et commencer le repas avec un petit truc comme ça. Alors là, ça réveille tout et ça donne envie. Alors c'est ça, c'est donner envie. L'envie de vivre, c'est le cœur. Et tout démarre avec le cœur. C'est le cœur qui nourrit le cerveau et pas l'inverse, il ne faut pas l'oublier. Si le cœur est déconnecté avec le cerveau, c'est pas bon signe.
Il fait un dernier rêve et puis ça s'arrête.
C'est pas bon signe. Non, mais c'est ça qui donne. Donc, c'est donner envie de partager. Le partage, c'est ça. Et tu sais, on en parlait tout à l'heure en aparté, mais c'est les Français ont cette composante qui est extraordinaire d'amour qui est connue dans le monde entier, de romance, de partage, d'échange. C'est ça notre force qui plaît à tout le monde. Donc,
D'ailleurs même l'essence de cette nation. Elle n'a pas d'autre.
Absolument.
Un peu absolument. Son histoire coloniale, certes, mais bon, absolument. C'est surtout parce qu'on est. Bah, ça a été. On a envie d'être ensemble, quoi.
Ben oui. Et de partager, de communiquer, d'échanger et de donner. Et c'est là qu'on voit, c'est très important parce qu'à partir du moment où on a cet élément feu, alors l'élément feu, il est en rapport avec la vision, en rapport avec le cœur. Je le dis. À partir du moment où on apprend à donner. Après, il ne faut pas oublier d'apprendre à recevoir. Et apprendre à recevoir, il faut être dans la joie. Et c'est là qu'il y a ce problème d'artères et de veines. Tu vois, les artères qui donnent le sang à tout l'organisme et qui reçoivent en échange le vécu des cinq sens par les veines. Et c'est cet aller et retour qui permet de grandir et de se nourrir. C'est ça qui est fabuleux. Et ça, on commence de le perdre. C'est pour ça qu'il y a de la cellulite, c'est pour ça qu'il y a des sciatiques, c'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes circulatoires. Mais bon, il faut regarder. Moi, quand je vois quand des gens ont des problèmes, soit de cœur, soit de sciatique, cellulite et autres, je leur dis, bon, comment est-ce que vous managez l'argent? Comment est-ce que vous gagnez votre vie? Comment est-ce que vous donnez? Comment est-ce que vous recevez? Ça, c'est des questions fondamentales à poser. Et là, dans la vie, dans un jardin et dans la forêt, c'est très important d'ouvrir les yeux et de prendre conscience que tout a une utilité. Ça aussi, c'est très important. C'est, on n'arrache pas une plante pour rien. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Elles sont toutes bonnes. C'est comme ceux qui disent on va licencier ou on va tuer les gens inutiles. Alors ça, c'est très à la mode maintenant. Alors maintenant, on dit, attends, on va se séparer de toute la population inutile dans le monde entier. Mais il n'y a pas une seule personne qui soit inutile. Moi, si on décide d'arracher un chien-dent, par exemple, au passage, le chien-dent, c'est excellent pour la prostate et l'utérus. Mais c'est vrai que c'est invasif, il y en a beaucoup. Donc il faut quand même je ne saurais pas dire le confiner, parce que là, je vais dire, mon Dieu.
Tu as failli le faire.
J'ai failli le faire, mais le limiter quand même, le limiter, limiter son expansion, c'est dire, bah, toi, tu es là, et puis là, toi, tu es là. Donc, mais on ne jette pas un pissenlit, un chien-dent, on ne jette pas quelque chose, on le réoriente, on va le mettre dans le compost, on va faire quelque chose, mais on réorganise, on peut réorganiser soi-même en fonction de ce que l'on veut.
Si on a envie de réorganiser.
Si on a envie de réorganiser, mais pour manger, c'est vrai que c'est... Lorsqu'on est sédentaire, qu'on est quelque part, à moins d'être nomade et de tracer constamment dans la montagne, dans ces conditions, on se renouvelle régulièrement. Si on est nomade, si on est sédentaire, on peut quand même, dans son jardin, avoir quelque chose. Et avec un tout petit jardin, tout petit, et ou bien simplement, en choisissant ses chemins de balade, on peut facilement se nourrir, et pas beaucoup, mais suffisamment, et bien. C'est ça qui est important.
Et il y a un cinquième élément.
Ben oui, il y a le cinquième élément.
Le fameux.
Ouais, il y a le cinquième élément. Alors, le cinquième élément, c'est celui que tout le monde oublie. C'est ça qui est marrant. Et c'est le cinquième élément qui est le cancer de la société, parce qu'on l'oublie. Le cinquième élément, c'est celui qu'on appelle l'élément limite, c'est-à-dire l'élément éther. Tu vois, c'est facile à comprendre. Tu as la Terre, après ça, tu as les océans. Au-dessus, tu as la masse gazeuse. Au-dessus, tu as le soleil, qui est l'élément feu. Et tout ça, eh bien, c'est dans un espace éthérique, dans l'éther. C'est,
dans un vide.
Dans un vide, dans cet univers. Mais c'est les limites. C'est les limites de notre système. Donc, on a des limites. Et le problème que l'on a...
On ne sait pas mesurer, mais...
Aujourd'hui, c'est qu'on ne respecte plus ses propres limites et on ne respecte plus les limites des autres. Alors, quand on ne respecte plus ses propres limites, eh bien, qu'est-ce qu'on a comme problème ? On a des problèmes de cheveux, des problèmes d'ongles, des problèmes de peau, ça c'est sûr. Et puis surtout, des problèmes de foie et de vésicule biliaire. Tous les problèmes de foie qu'on a, en général, c'est justement parce qu'on se met en colère. Alors ça aussi, c'est une petite parenthèse qui est amusante.
Ou qu'on fait des excès.
Oui. C'est clair. Mais quand on fait des excès, c'est comme tu le dis, ouais, mais c'est qu'on n'a pas respecté ses limites.
Voilà.
C'est pour ça. C'est ça. Alors, il y a une petite nuance qui est assez intéressante, c'est que ce sont plus les hommes qui ont un problème avec le foie, c'est-à-dire qui ont plus tendance à être colériques, c'est-à-dire à exploser, et plus les femmes qui ont des problèmes de vésicule biliaire parce qu'elles ont plus tendance à imploser. Tu vois, ça, c'est
elle
un
garde
truc.
Tout.
Voilà, c'est un truc qui est assez marrant. Ouais. C'est assez marrant, ça.
Enfin, marrant.
Ouais, marrant parce que des fois, tu le vois. Je me souviens, il y avait une femme qui m'avait dit un jour, elle m'a dit, mon père, il a fait un cancer de la vésicule biliaire. Hein, je lui disais, c'est marrant. Et qui est-ce qui tient la culotte chez toi ? Elle me dit, c'est ma mère. c'était assez rigolo. Voilà, comme par hasard. Tu vois. Non, mais on ne peut pas mentir. Donc, je veux dire, quand on retrouve ces cinq éléments, après, il reste la dernière chose qui est la plus importante, c'est le respect du yin et du yang, c'est-à-dire des deux énergies fondamentales. Or là, on a l'impression qu'on parle chinois, peut-être que c'est chinois, mais il y a quand même une réalité dans la vie. Hein. C'est, on regarde toutes les espèces végétales, elles ne peuvent se multiplier que s'il y a effectivement une partie yin et une partie yang, une partie mâle, une partie femelle, qui vont à un moment donné se connecter pour se reproduire. Pareil pour les animaux et pareil pour les hommes. Alors encore une fois, je m'empresse de dire, moi, je n'ai aucun jugement par rapport au choix personnel que les gens peuvent faire de leur vie. Chacun fait bien ce qu'il veut. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, il n'y a que le XX et que le XY, et que si on veut donner la vie, il faut obligatoirement que ce soit un XX et un XY, un mâle et une femelle qui se rencontrent. Si on veut donner la vie. Mais la finalité de chaque personne, ce n'est pas forcément de se régénérer, de donner la vie. La finalité d'une femme, c'est d'être une femme. La finalité d'un homme, c'est d'être un homme. Et ce n'est pas d'être mère, père ou autre chose. Il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Donc, bien comprendre ce que c'est que cette énergie yang, comment elle se manifeste, comment elle s'exprime dans le corps, quelle est cette énergie yin, comment elle s'exprime dans le corps, et après, on fait ce qu'on veut. Mais au moins qu'on sache que ces choses-là sont incontournables. On ne peut pas se mentir. On ne peut pas raconter de blagues. Il y a une chose dont on parle pas assez, mais on parle toujours du cancer du sein. Et le cancer du sein, c'est un truc... Je vais donner un scoop, je ne suis pas médecin, alors ne m'attaquez pas. C'est justement une idée, une hypothèse de travail. Ok, bon, je suis comme Bill Gates, j'ai le droit de parler de... Hein, j'ai le droit d'en parler, moi aussi. On va parler de choses médicales, non ? Le corps nous appartient. Bon, moi, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vu, et j'ai quand même suffisamment d'expérience par rapport à ça, de vérification personnelle, c'est qu'il y a une grande différence entre le sein droit et le sein gauche, mais que tous les problèmes de cancer du sein sont toujours en relation avec une difficulté d'expression de la femme par rapport à sa féminité. Et ça, vous pouvez le vérifier quand vous voulez. Donc là, c'est assez important parce que...
Il y a des femmes qui ne peuvent pas être femmes. Mais ça, on sait, nos systèmes patriarcaux les empêchent.
Ah ben oui, c'est sûr. Eh ben, tu regardes les problèmes qu'il y a après. Alors, les problèmes, ils se manifestent d'abord au niveau des douleurs au niveau du cycle qui n'ont aucune raison d'être. Quand il y a des douleurs au niveau du cycle, c'est qu'il y a un problème œdipien non résolu. Donc, on n'a pas reconnu correctement son père et sa mère. Et en se libérant d'eux, à 7 ans et puis à 14 ans. Donc, c'est deux étapes fondamentales. C'est pour ça, faire porter un masque à 6 ans, c'est dramatique. Dramatique pour les enfants. Mais donc, il y a eu un problème à ce niveau-là. Mais après, plus tard, ça se manifeste au niveau de l'expression des seins. Et pour la femme. Pour l'homme, c'est autre chose. Voilà. Mais pour la femme, c'est ça. Donc, quand il y a un cancer ou même une mastose ou même une perturbation de la peau qui se fait au niveau d'un sein, c'est très important de voir si c'est à droite ou à gauche. Ça n'a rien à voir. Si c'est à gauche, il y a une réception yang. Donc, c'est un problème de non-expression de la féminité par rapport à un homme. Et ça, c'est 80% des cancers sont à gauche. Donc, par rapport à un homme, on pense d'abord en premier au père ou bien au frère. ou bien au conjoint, ou bien à un homme avec lequel il y a eu un problème à un moment donné. Et donc, il y a une empreinte qui a été faite à ce moment-là, une difficulté d'existence qui est très importante. Et puis, pour 20% des autres, c'est à droite. Alors, le côté droit, il faut bien dire, hein, c'est le côté droit, c'est le côté yang qui réagit par rapport au yin. Donc, c'est pour ça qu'il y a une confusion très souvent qui est faite en disant ben, côté droit, c'est par rapport à un homme. Non, non. Le côté droit de tout le monde, des hommes et des femmes, il est yang. Et donc, il réagit par rapport au yin, par rapport à l'opposé. Donc, quand on a un problème à droite, où que ce soit à droite, c'est qu'on a un problème de communication par rapport à une femme. Quand on a un problème à gauche, c'est qu'on a un problème de communication par rapport à un homme. Donc, ça, c'est très important. Je sais que c'est la première des questions qu'on devrait se poser quand on a un problème. Déjà, c'est à droite ou c'est à gauche? Avec qui ai-je un problème de communication? Et la faute, ce n'est pas l'autre. La faute, c'est moi. Il faut bien voir que la faute, c'est jamais l'autre. C'est pas lui qui me pose un problème, c'est comment moi, je réagis par rapport à l'autre. C'est ça qui nous pose un problème. Voilà, donc un petit tour assez général, mais complet.
Est-ce qu'on a fait du coup tous les points là? Parce que, voilà. Donc, on les rappelle, son identité.
Eh bien, tu vois, il y a un truc simple, si tu veux. Si tu veux écouter ta voix, tu le dis. Par exemple, pour l'identité, tu dis « je suis Jean-Loup ». Et tu dis, tu ne dis pas Jean-Loup, hein, tu dis son prénom.
Tu dis, je suis Jean-Loup,
voilà,
moi aussi.
Voilà, mon Dieu, catastrophe, catastrophe. Voilà, ça serait dramatique. Donc, tu dis ton prénom, tu dis Jean-Loup. Ensuite, tu dis, par exemple, « je suis là, ici et maintenant, je suis présent ». Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est j'ai les pieds sur terre. Et tu écoutes si tu as les pieds sur terre réellement. Le quatrième point, c'est je suis dans la joie. Le cinquième point, c'est je suis unique. Et tu écoutes ta voix en même temps. Le sixième, c'est je suis dans l'amour de moi-même. Le septième, c'est je suis libre. Et le huitième, c'est je suis un homme ou bien je suis une femme, le cas géant. Voilà. Et quand on dit ces huit phrases... je te promets que les médecins que je connais bien à Taïwan, tu dis ces huit phrases-là, ils te racontent toute ton histoire. Ils te disent quels sont tous tes problèmes médicaux et tes problèmes de communication, puisque les deux sont toujours liés, même si on ne veut pas l'entendre, parce que c'est plus facile de vendre des pilules ou des traitements. Mais le problème qu'on a, c'est toujours nous. Quand on a un problème de communication, c'est comment nous, on a un problème de communication. Voilà. Ça te paraît simple?
Bah ouais.
Bah voilà. Voilà. Donc moi, ce que je souhaite, là, tu vois, j'avoue que je me suis emporté. Hein, Non, mais j'en suis désolé, mais bon.
Tu me dois 50 euros.
Je suis encore... Non, mais j'avais pas fait de Paris, attends. Moi, j'en suis au début de la troisième partie de ma vie.
Non, mais pour la
psychanalyse. Oui, oui. j'en suis au début de la troisième partie de ma vie, donc il me reste encore pas mal de travail à faire. C'est pour ça que je suis pas pressé.
C'est toujours dur.
Ouais. Et voilà, mais je pense que c'est important de s'exprimer, de reconnaître quand on a disjoncté, quand on a fait quelque chose, et surtout... d'avoir comme objectif de dire ça sert à rien de s'entretuer, on bat les masques, sourions-nous, serrons-nous les mains et voyons ça. Tout le monde, je veux dire, c'est Léonard de Vinci, il prenait les lépreux dans ses mains. Je veux dire, on va pas, tu vois, avoir peur des uns et des autres, c'est de la connerie, ça c'est, mais vraiment, vraiment de la connerie. Les maladies les plus graves, elles sont contagieuses que si on ouvre la porte. Mais quelqu'un qui reste complètement droit, a priori, il est protégé. Il est protégé de tout. C'est clair. Voilà.
Merci Jean-Loup.
Merci à toi. J'espère.
Donc on te retrouve sur le marché pour dire exactement la même chose, si les gens veulent.
Mais sincèrement, je dirais, voilà. Moi, je suis venu ici parce que je dis, bon, il y a vraiment quelque chose à faire. Moi, ce que je fais sur le marché, c'est simplement, bon, je ramasse le matin tout ce que je vois qui peut se ramasser et qui peut se manger. Et puis, je le montre parce que je suis ravi de voir le nombre d'enfants qui connaissent parfaitement les plantes. Mais la plupart des autres, ils ont quand même le réflexe, j'ai faim, qu'est-ce que je peux acheter? Et au lieu d'avoir le réflexe, j'ai faim, qu'est-ce que je peux cueillir? Et c'est bien ça le changement de société qui est en train de se faire, c'est qu'on n'est plus basé sur de l'argent factice qui ne vaut rien, mais on doit se rebaser sur la réalité de la vie. C'est ça. Donc, encore une fois, moi, sur le marché, je ne gagne pas d'argent, mais je gagne ma vie, parce que j'échange.
Belle journée.
Merci à toi.
Interview.
Ok, de beurre.
L'interview du jour.